Radio Starbeck.
Morning edition from NPR.
Edition Santin de la House.
Lo que se reproduce y está en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, en ce 24 décembre, nous faisons la part belle au reportage qui fait le sel d'un jour dans le monde. Claude Guibal ici à Paris, mais souvent dans le désert. Grégory Phillips aux États-Unis. Karine Michimura-Poupée à Tokyo. Vous raconteront les coulisses de leur reportage, les petits trucs, les détails dont on n'a jamais le temps de parler. Étienne Monin, lui, a été à Bethléem qui termine enfin de longs travaux. Il y a encore des échafaudages, sans doute pour la dernière année. Ce soir, en guise de Sous les radars, nous irons voir comment ça se passe ailleurs dans le monde grâce à Gérald Roux qui a écrit un petit bouquin très précieux en la matière. Et puis, Ilana Mourioussef et Corinne Pellissier vous feront découvrir leur coup de cœur de l'année, les livres et le cinéma. Il n'est pas encore trop tard. Ce soir, comme tous les soirs, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Vous le savez, parce que vous nous suivez nombreux chaque jour dans Un jour dans le monde, c'est vraiment l'émission des reporters et du reportage, l'émission de ce qui se passe ailleurs. Et je dis toujours que notre métier à nous journalistes, c'est d'essayer de rendre intéressantes des choses importantes. C'est aussi simple que ça et c'est ce que font les reporters à travers le monde tous les jours pour nous. On a la chance d'avoir un maillage exceptionnel. Et du coup, puisqu'on est le 24 décembre, donc a priori tous détendus, on a voulu rendre hommage à ces reporters que vous entendez régulièrement. On a choisi de faire le tour du monde avec vous, Claude Guibal par exemple. Bonsoir. Claude.
Bonsoir Fabienne.
Ici à Paris, mais globe-trotteuse, évidemment, comme il se doit, avec Grégory Phillips, qui est à Washington. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Voilà, chacun dans son fuseau horaire, et avec Karine Nishimura-Poupée, qui est à Tokyo. Bonsoir ou bonjour à vous, Karine.
Bonsoir Fabienne.
Le cahier des charges, c'est racontez-moi ce que vous avez envie de me raconter. En fait, carte blanche, tout ce que vous n'avez pas pu replacer dans un reportage, ou les reportages que j'ai refusés parce que j'ai décidé que c'était pas
parce
le moment.
Parce que vous êtes une vilaine,
mais
Fabienne.
Exactement, pour un tas de raisons de ce genre-là. Claude, c'est par vous qu'on commence. Vous qui avez l'habitude d'aller dans des contrées qui ne sont pas toujours très drôles, c'est le moins qu'on puisse dire, souvent derrière des histoires de djihadistes, tout ça n'empêche pas de temps en temps de se détendre en reportage. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, par exemple, ce que c'est que ça.
Voilà Fabienne, je voudrais que vous imaginiez la scène. Hein.
Mm-hmm.
Petit matin, il y a quoi, 3 semaines, 1 mois, je me réveille, on est là en fait, on est en plein désert, on est au milieu du désert à la frontière du Mali et de la Mauritanie, et je dors sous une tente de nomade, et puis j'entends ce bruit, et je sors, et en fait je n'avais pas vu que là où on s'est arrêté, c'est là aussi où s'est arrêtée une caravane de sel. Alors vous imaginez, on est quand même en 2018.
Caravane de sel.
Il y a encore des caravaniers comme ça, des hommes qui partent avec 100 chameaux à travers le désert comme ça pour amener du sel gemme qui vont racler à la surface des lacs. Et donc moi je me réveille le matin, il y a 80 chameaux autour et qu'est-ce que je fais? J'ai à peine les yeux ouverts, je me prends les pieds dans mon sac de couchage, je pars avec mon agra et je pars derrière ces chameaux à travers les dunes dont un est en rut et donc me trouve apparemment très intéressante parce qu'il me parle, vous voyez, il me parle dans mon micro.
On sent bien
que je
vous dis
suis
des
là,
choses.
Je tends mon micro avec les caravaniers qui sont morts de rire quand même et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette Française qui est là au milieu de nulle part avec son micro rouge siglé France Inter en train d'interviewer des chameaux en plein désert à l'aube.
Alors c'est marrant parce que quand vous revenez, que vous racontez ces histoires et que vous avez des histoires de chameaux dans le magnéto que forcément on n'a pas diffusé, on se rend compte qu'il y en a plein chez vous des histoires de chameaux. Alors je ne sais pas si vous êtes suivi ou pas parce qu'il y a ça aussi par exemple. On entend galoper derrière.
Derrière, parce que là aussi, on est encore au milieu du désert. On est à l'arrivée d'une course de chameaux, mais alors comme on en voit dans Laurence d'Arabie, c'est ça d'ailleurs qui est dingue dans le métier qu'on fait. C'est effectivement, moi, je suis plutôt d'une actualité qui est assez lourde, assez plombante, et puis il y a toujours ces moments soit très drôles, soit magiques, hein, parce que vivre des choses comme ça, c'est dingue. Imaginez, vous êtes là encore en plein désert avec ces centaines d'hommes au visage masqué de bleu, puis ces chameaux.
Côté permanence du temps, en fait,
c'est complètement anachronique. Voilà. C'est aussi ce genre de choses un petit peu étonnantes qu'on a la chance de vivre.
Alors, il y a l'essence de ce qu'on fait, évidemment, c'est le son. C'est aussi arriver à nous faire voyager grâce au son. Ce que vous nous faites entendre sur les chameaux, ça dit ça aussi. Cette année, on vous a chanté des chansons, Claude. On vous a écrit des poèmes. On vous a engueulé aussi. Dans quel ordre vous voulez qu'on procède?
Mais je sais pas, moi. Le poème, attendez, un poème, c'est quand même extraordinaire, non?
Le poème.
Sahafa Daouliya Hadrat Hadoulewa. من باب التغطية فينا للمهرجان.
Claude, vous avez entendu, c'est moi ça. Ce poème, c'est un Mauritanien qui l'a composé. Alors, l'art oratoire, hein, l'art de la poésie, c'est quelque chose que partagent les Mauritaniens, les nomades notamment. Et donc, et ben, les soirées hein, sous les tentes, comment elles se passent? Elles se passent à faire de la poésie. Et là, c'est un poème à la gloire des journalistes français. C'est classe, non?
Une sorte de slam juste pour vous sous la tente. Allez, tiens, un petit chant peut-être pour la route.
Blah, 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 blah.
Vous savez qui c'est qui chante
non,
là ?
Vas-y.
Bah là, c'est Neymar, peut-être, ou Ronaldo, je ne sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, c'était un petit garçon
qui
a des noms de footballeurs. Non, en fait, c'est mon équipe de foot à moi. C'est dans tous les pays du monde où vous allez comme ça. Et ben, le foot, c'est quand même quelque chose qui rassemble. Et cette année de Coupe du Monde, c'était encore plus frappant parce que dans quelques coins du monde où vous allez, et ben, il y a toujours ces gosses qui ont
et
même des.
Et c'est plus facile de faire du reportage quand on est de l'équipe dans laquelle il y a Mbappé, j'en suis sûr.
Mais c'est vrai que tous ces gamins, ils ont des. Même au fin fond du monde, vous allez trouver des gamins avec un maillot, Ronaldo, Zlatan, etc. Et ben pareil, vous tapez dans la balle, même si vous êtes pas une footeuse comme moi. Et là, la balle, en l'occurrence, avec ces gamins, c'était une boule d'herbe séchée et roulée dans une toile de jute qui avait servi à transporter de l'aide humanitaire. Et voilà, là aussi, ça casse toutes les barrières. Et même dans les situations difficiles, une fois de plus, on se marre.
Et parce que, effectivement, on se marre aussi dans les situations difficiles. Parfois, allez, une dernière chose, parce qu'il faut toujours être attentif à ce que les gens racontent et pas avoir le nez constamment posé sur son magnéto pour regarder. Je sais ce que c'est. On regarde si le vue-mètre bouge pour être tranquille. Sauf que eux, les gens ne le savent pas et voici ce que ça peut donner.
Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux déposer des questions ?
Oui, on est où ici, monsieur ?
Vous êtes à Walata. La Mauritanie aujourd'hui, écoutez-moi s'il te plaît très bien. Tu m'as posé une question, je te réponds. Je te dis que la Mauritanie, c'est le cœur de l'Afrique. Est-ce que tu m'as bien compris ?
Est-ce que tu as bien compris ?
Je me suis fait engueuler jusqu'au bout. Il m'a suivi, le monsieur, en disant hein, tu as bien enregistré, hein, tu as bien enregistré en sécurité totale qu'on est.
Bon, vous vous êtes réconcilié quand même avec ce monsieur finalement ?
Écoutez, j'ai une proposition de mariage.
Ah, pas mal, écoutez, hein,
formidable. Les poèmes, formidable. Tout ça, j'avais oublié. Mais...
Allez, Claude, on va traverser l'Atlantique, où vous avez passé beaucoup de temps d'ailleurs aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, Claude, très récemment d'ailleurs, et pour les élections à mi-mandat. Retrouvez Grégory Philips qui nous attend. Grégory, qu'on entend évidemment beaucoup dans Un jour dans le monde. Vous, ce que vous avez voulu faire, Grégory, c'est nous partager avec nous les moments forts que vous avez traversés cette année, parce qu'il y en a eu beaucoup dans l'Amérique que vous couvrez, des choses qui vous ont ému aussi. On commence par aller à Parkland et vous nous raconterez après.
And as for the politicians, I mean, I know that they're scared of the NRA because the NRA gives them
les politiciens, je sais qu'ils ont peur de la NRA parce qu'ils dépendent de l'argent de ce lobby.
They should be scared of our moms.
Mais ils feraient mieux d'avoir peur de nous. D'ailleurs, ce n'est pas que de nous, une bande de gamins. Ils devraient aussi avoir peur de nos mères, de nos pères, parce qu'ils ne connaissent pas la force d'une mère qui veut protéger son enfant. Ils vont finir par perdre leur mandat, par se faire virer. Et si ce n'est pas par nous, ce sera par nos parents, nos cousins, nos amis, par tous ceux qui ont un peu de sens commun. Et si nous, on doit devenir des politiciens, si on doit remplacer ces gens qui écrivent les lois de ce pays au Congrès, eh bien, on le fera. On finira par gagner.
On se souvient très très bien évidemment de ce moment après la tuerie de Parkland, Grégory. Ce qui est fou, c'est l'émotion que ça avait suscité. Il y a certains personnages qui reviennent, hein, notamment cette jeune femme qui s'appelle Emma Gonzalez. C'est pas elle qu'on a entendue là, Grégory.
C'est son amie, elle s'appelle Léonore, mais c'est une grande copine d'Emma. Elles ont vécu ensemble la tragédie de Parkland. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est la détermination de ces gamins, comme dit Léonore, et la force de leur discours. Faut imaginer 17 enfants abattus dans leur lycée et quelques jours après, Emma Gonzalez, Léonore Munoz qu'on vient d'entendre, ont l'intelligence d'interpeller le pays. Et c'est vrai qu'il y a eu les gigantesques manifestations qu'on a vues à Washington et un peu partout. Et avec un discours d'une précision incroyable. Léonore qu'on vient d'entendre, elle a 17 ans. Elle est même pas encore en âge de voter. Elle est même pas encore diplômée. Elle est même pas encore à l'université. Et quand elle vous raconte avec quelle détermination elle va agir pour essayer de faire changer les choses aux États-Unis sur la question des armes, c'est vraiment frappant. J'étais admiratif de la manière dont ces gamins ont réagi.
Allez, Grégory, soyons un petit peu plus légers en ce jour de Noël. Et je voulais vous faire un cadeau, mais au fond, j'arrive pas à savoir si je vous fais un cadeau ou si je vous fais de la peine. Écoutez ça.
Est-ce que vous croyez en Père Noël ? Ah ! There we go !
Greg, vous pleurez ou pas là ?
Ah, vous me faites plaisir quand même, vous me faites plaisir.
Bon, votre idole totale, Bruce Springsteen, Grégory. Moi, honnêtement, c'est formidable ce moment-là, d'abord, parce que il chante un chant de Noël, Bruce Springsteen qui chante un chant de Noël, je veux dire, c'est un peu Elvis à la messe, enfin, c'est quand même super bizarre. Et le public, enfin, je veux dire, c'est pas du genre à chanter des chants de Noël quand on va dans un concert de Bruce Springsteen, et là, oui, en fait. Donc l'archive est formidable.
J'adore ça.
Après, c'est un peu rude pour vous, parce qu'effectivement, ça a été votre grande tentative de l'année, totalement échouée. Vous n'avez pas vu Bruce Springsteen cette année.
Vous voulez vraiment qu'on en parle?
Bah oui, je voudrais bien qu'on en parle, parce que vous avez tellement essayé, mon pauvre, c'est horrible.
Springsteen, un an sur scène à Broadway, dans un petit théâtre de 900 personnes au Walter Kerr Theater, un spectacle de 2h30 où le boss raconte sa vie seul à la guitare ou au piano. En fait, il fallait être tiré au sort pour avoir le droit d'acheter des places, et j'ai pas été tiré au sort.
Ou alors il fallait être Antoine Decaune, mais bon, vous n'êtes pas Antoine.
Ou alors il fallait être ou alors il fallait être Antoine Decaune et connaître personnellement le boss pour pouvoir aller l'interviewer. Et oui, bah c'est l'échec de mon année, j'ai pas réussi à trouver de place.
Et
je vous jure que j'ai tout fait. Je vous jure que j'ai tout fait pour essayer d'aller voir Springsteen à Broadway, et ça n'a pas marché.
Et vous n'êtes pas tout seul à avoir tout essayé, parce que je sais pas si vous vous souvenez, vous en souvenez forcément parce que vous m'avez envoyé la petite vidéo, Marco Volter qui travaille avec vous à New York, qui va à la sortie pour faire un reportage avec les fans. Écoutez-le, cet imbécile de Marco.
Grégory Philippe, signe sa ticket. Grégory Philippe, signe sa ticket.
Et on l'embrasse, Marco, mais là aussi, échec, échec total et cuisant.
Oui, faut juste dire qu'il interpelle Bruce Springsteen, qui est en train de rentrer dans la salle de spectacle, et il lui dit, Philips veut un ticket, donnez-lui un ticket, s'il vous plaît, etc. Et ça n'a pas marché. Pour me consoler, il y a quand même cet album, live qui vient de sortir, absolument incroyable, et puis ce documentaire sur Netflix, où ils ont filmé l'intégralité du concert, et je vous jure que si vous aimez l'Amérique comme je l'aime, c'est un moment absolument dingue, parce que il y a certes les chansons et la vie du boss, mais il y a aussi, la guerre du Vietnam, la route, l'histoire de ce pays, l'histoire des gens de ce pays, la relation que Springsteen a à son père. Enfin bref, il y a toute l'Amérique dans ce film, Springsteen à Broadway. Vraiment, je vous conseille de le regarder.
Eh ben, écoutez, évidemment qu'on l'a fait, qu'on le fera. Et Grégory, j'ai une question subsidiaire pour vous, parce que vous m'avez confié il y a pas très longtemps, il paraît que vous avez fait ce que font tous les Américains, vous avez envoyé votre ADN pour un test,
oui.
C'est ça? C'est très très à la mode aux États-Unis. Vous êtes totalement américanisé.
Surtout juste avant Noël, en fait, c'est même un cadeau qu'on fait aux gens. Moi j'ai pris l'option $59, où j'ai donc envoyé un petit peu de salive, et en échange de ça, j'ai reçu effectivement la carte de mes origines. Donc j'ai appris, par exemple, parce que je ne le savais pas, que à 51%, mes ancêtres venaient d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse. Moi, je pensais que j'étais normand, mais apparemment
excusez-moi, mais c'est pas très loin.
Eh oui, mais vraiment d'Angleterre,
du Pays de Galles. Ça a appris qu'il était grand et
d'Écosse. Exactement. Et vous recevez ça, et vous avez la trace de vos ancêtres. C'est un cadeau de Noël qui marche très fort aux États-Unis cette année.
Écoutez, gardez-le, en fait. Moi, ça me fait peur, ce truc. Allez, merci beaucoup, Grégory Philips. On va traverser le continent, traverser l'océan aussi, traverser le Pacifique et se retrouver au Japon, donc pour retrouver Karine Nishimura-Poupée. Karine, on adore vous entendre dans Un jour dans le monde, parce que s'il y a bien un pays, finalement, qu'on connaît très mal, c'est le vôtre. Et vous avez voulu nous emmener dans un lieu, nous ramener au fond, dans un lieu que vous nous avez déjà fait visiter. Vive le son, vive l'ambiance. D'abord, on va glisser ce que ça donne en son derrière vous, puis vous allez me raconter de quoi on est en train de parler.
Alors ouais, ça c'est magique. C'est magique parce que c'est le son des enchères de thon, c'est le marché aux poissons de Tsukiji. Voilà, donc c'est gestuel, visuel, sonore, c'est tout à la fois, et c'est très émouvant en fait. C'est très émouvant parce qu'on a là affaire à des gens qui sont dans un spectacle qu'on n'a jamais vu ailleurs, qu'on verra sans doute nulle part ailleurs, et qui reflète tout un art de vendre du thon. Alors ça paraît bizarre en le disant comme ça, mais c'est assez extraordinaire parce que si vous les voyez, ils ne se parlent jamais, et pourtant ils se vendent des choses. Ce monsieur qui crie répond à d'autres qui lui répondent avec des gestes de la main qui sont des gestes codés. Tout le monde se comprend, sauf comme ça le spectateur qui arrive de l'extérieur comme moi, mais que font-ils, je ne sais pas. Et pendant que je regarde, pendant 5 minutes, il s'est vendu 10, 15, 20 tons et j'ai rien compris. Et c'est extraordinaire.
Et ce marché que vous nous décrivez aussi bien et cette ambiance-là n'existe plus, au fond c'est terminé parce que le marché est fermé.
Effectivement, il a fermé en octobre dernier, et derrière lui, il laisse de très très nombreux nostalgiques, surtout là, à cette période de fin d'année, hein, où au Japon aussi, on va faire les courses de Noël, les restaurants sont en pleine effervescence, et donc c'était vraiment un moment magique à Tsukiji, et c'est fini, on verra plus ça du tout. Et parmi les nostalgiques de ce lieu et de ce moment particulier, eh bien, il y a un chef français qui s'appelle Lionel Beka, qui est un chef étoilé, qui a un restaurant qui s'appelle L'Esquisse, à Tokyo. Tokyo. Et dans un espèce de mélange de, vous allez voir, de mots japonais glissés au milieu du français, eh bien, il se souvient de ce qu'on appelle Oshogatsu, le nouvel an en japonais.
Et la scène la plus émouvante, je trouvais, c'était au moment où les échoppes fermaient avant Oshogatsu, où tu voyais le marché s'éteindre, et à la fois la fatigue des travailleurs, parce que c'est énorme pour Oshogatsu ici, c'est juste fou. Et en même temps, voilà, tout ce côté un peu toujours solennel de on va fermer, Sukasama, dans les petites entreprises familiales, c'est vraiment le plus beau, je trouve.
Et c'était beaucoup plus qu'un marché, évidemment, cet endroit-là.
Ah, c'était plus qu'un marché, c'était un espèce de musée vivant des décennies passées de Tokyo. C'était l'âme du Japon, c'était la culture du Japon, c'était tout à la fois. Et puis c'était surtout des rencontres exceptionnelles chaque fois qu'on allait à Tsukiji. On rencontrait des gens absolument passionnés. Et ce que me racontait Lionel Beka ou d'autres chefs, c'est qu'à Tsukiji, en fait, ce ne sont pas les clients qui choisissent leurs poissonniers, ce sont les poissonniers qui choisissent leurs clients. Il faut que s'installe entre les deux une relation de confiance parce qu'ils ont un tel amour des produits qu'ils vendent qu'ils veulent pas qu'on en fasse n'importe quoi. Et donc lui, il lui a fallu des mois, parfois même des années, pour convaincre un poissonnier de lui vendre son poisson. Et puis ça se fait pas comme ça très facilement. Il se renseigne sur la personne qui est venue, sur ce qu'elle cuisine et autres. Donc c'est assez extraordinaire.
Et Karine, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 mois que ce marché a déménagé. Le site, qu'est-ce qu'il devient? C'est une friche? C'est quoi?
Non, c'est terrible, c'est des bulldozers. C'est ces bâtiments qui étaient des bâtiments extraordinaires, construits en épi, avec une architecture vraiment pensée pour livrer le poisson. Tout ça, ça dégage. Et ça va être, je vous le donne en mille, un parking pour les Jeux Olympiques de 2020.
On n'a presque pas envie de le savoir, en fait, ce que ça va devenir. On n'a surtout plus envie d'y aller une fois que ce sera devenu un parking. Dites-moi, Karine, juste pour terminer, puisqu'on sait maintenant que Oshogatsu, c'est le nouvel an. D'abord, dites-moi comment on dit Noël en japonais.
Alors, en japonais, ça se dit, écoutez bien, Christmas.
Ah bah.
C'est pas mal.
Ah bah, écoutez.
Mais comme ça, vous comprenez que c'est une fête qui est importée et qui a absolument, au Japon, aucun caractère festif officiel. Le 25 décembre est un jour ouvré normal. Et la fête de Noël, généralement, on la passe pas en famille, mais on la passe entre amis. C'est le nouvel an qui est solennel au Japon. C'est le nouvel an qu'on va passer en famille, qu'on va préparer, qui va être vraiment la grande fête de l'année.
Allez. C'est magnifique, mais on va devoir se quitter là-dessus, Karine. Et ça, c'est tellement
c'est
japonais,
triste.
En fait. C'est tellement japonais, finalement, y compris dans les chants Noël. En tout cas, merci beaucoup. Tout ça est toujours passionnant quand on vous écoute. Vous êtes la bienvenue tous, évidemment, tous les trois. Merci encore à tous les reporters de leur présence dans Un Jour dans le Monde très régulièrement. On n'en a pas fini, loin s'en faut, avec leur reportage. Merci encore.
France Inter, Fabienne Saintès, Un Jour dans le Monde.
Et on n'en a pas fini puisque la suite, c'est un reportage toujours, celui d'Étienne Monin à Bethléem. S'il y a un jour pour y aller, c'est bien celui-là, pas de sous les radars. Mais nous sommes avec Gérald Roux et un petit comparatif de ce que font nos voisins. Vous pourrez aussi aller piocher dans les choix livres et disques d'Ilana Mariousef et de Corinne Pellissier. Voici Cannibal, on passe par la Normandie. Not easy to cook, on ne va pas savoir ce qu'ils essayent de cuire, ce soir.
I am undecided on how to cook it in a pressure cooker in a bannery. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
The microwave oven will do the trick. I turn the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No.
Orange bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
hot and steaming, it approaches me. My name is Christian, put me in your belly. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
Gosh, this cookery is so serene.
Il paraît que c'est pas facile à cuire, dites-moi, c'est ce que disent les cannibals sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахиваю копьём.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et en guise de sous les radars, tiens, ce soir, on va plutôt aller chercher quelques histoires insolites qui répondent à une question qu'on se pose nous tous les jours, c'est notre boulot, dans Un jour dans le monde, comment font les autres et comment ça se passe ailleurs? Il se trouve que vous, vous posez exactement la même question tous les jours chez nos amis de France Info. Gérald Roux, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous signez, Gérald, un petit atlas insolite, c'est publié chez France Info et autrement, ça s'appelle « C'est comment ailleurs ?» Et c'est vrai que parfois, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console. Prenons des exemples, picorons des petites choses ici et là, on en parle beaucoup en France en ce moment, le SMIC, son augmentation ou pas, notre salaire minimum, eh ben, il n'existe pas partout et surtout il ne fonctionne pas de la même manière partout.
Et oui, c'est ce qu'on a découvert en faisant des petites recherches dernièrement. Ben, aux États-Unis par exemple, il faut savoir que le SMIC, il est à 7,25$, c'est-à-dire à peu près 6,20€. C'est le SMIC fédéral, ça, dans tout le pays. Il n'y a pas eu de hausse depuis 2009. Heureusement, quand même, tout n'est pas aussi noir. Dans des États comme la Californie, comme New York, qui sont souvent dominés par les démocrates, il y a eu des décisions de porter le SMIC à 15$, deux fois plus, en 2022. En Grande-Bretagne, alors là, il y a pendant très longtemps, le SMIC, le salaire minimum, il était très faible. Étonnamment, les conservateurs, c'était à l'époque encore David Cameron qui était au pouvoir, ont décidé, en 2016, de faire monter le SMIC de 40%. Mais attention, contrepartie, on va augmenter le SMIC, mais en revanche, on va vous faire baisser les taxes pour pouvoir donner moins d'aide sociale aux SMICards, dont les revenus vont s'élever.
Alors, Gérald Roux, on sort à peine de la COP24. Autre exemple, l'année a été marquée beaucoup par les tentatives de sortir du tout plastique. On a supprimé les pailles, on a supprimé beaucoup de choses comme ça. Parlez-nous quand même de cette île poubelle, réellement, que vous avez découvert aux Maldives.
Oui, aux Maldives, ça s'appelle l'île de Tilafushi. C'est seulement à 10 km de l'île principale, l'île capitale qui s'appelle Malé. C'est une île qui fait 7 km de long et qui est large de seulement 200 mètres. Depuis 1992, les Maldiviens avaient un problème, ils ne savaient pas quoi faire de leurs déchets. Ils les ont tous envoyés sur cette île. 450 000 Maldiviens, plus les 1 400 000 touristes qui viennent aux Maldives chaque année et qui produisent d'ailleurs deux fois plus
de déchets que les Maldiviens.
Bon ben, 300 tonnes arrivent tous les jours sur cette île poubelle. Alors au départ, les déchets étaient mis dans des sortes de silos, mais très vite, tout cela a débordé. Donc les déchets aujourd'hui aux Maldives, depuis plusieurs années, sont déposés carrément à même le sol ou même dans la mer, sur des niveaux de mer qui sont très peu profonds. Tous ces déchets, il y a des piles, il y a des déchets électroniques, il y a des plastiques.
Et qu'on ne voit pas quand on est à côté, sur une autre île totalement paradisiaque, avec un billet d'avion sur des temps passants et une taxe carbone pour aller jusque-là, qui doit être assez haute quand même.
Alors souvent, les gens peuvent voir éventuellement, quand ils sont à Malé, ils peuvent voir parce que ces ordures sont brûlées par des gens qui viennent du Bangladesh, souvent, qui travaillent là-bas. Et le nuage toxique peut aller jusqu'à Malé, la capitale des Maldives.
Alors, autre sujet, Gérald, qui nous a beaucoup préoccupé là, en cette fin d'année, d'ailleurs, c'est le coup de gueule des policiers, juste après l'affaire des Gilets jaunes. Expliquez-nous, et ça intéressera les policiers qui nous écoutent, expliquez-nous comment ça se passe à Dubaï.
Alors à Dubaï, qui est un émirat pétrolier très riche, là-bas les habitants possèdent des voitures très luxueuses, des bolides. Pour pouvoir rivaliser avec ses habitants et être au niveau, entre guillemets, la police possède des Lamborghini, des Porsche, des Ferrari, des McLaren. Ça joue aussi la richesse, l'avancée des gens de Dubaï dans la police. Ça joue aussi sur la robotisation de la police de Dubaï. L'an dernier, ils ont présenté un officier robot qui a au niveau de la poitrine une sorte d'ordinateur. Et cet officier robot peut détecter par exemple la présence de personnes recherchées et les transmettre au QG de la police. 25% des policiers en 2030 devraient être des robots comme celui que je viens de vous décrire.
Il y a aussi 25%, c'est
25%, le quart, c'est l'objectif que s'est fixé l'émirat. Et puis après, vous avez aussi à Dubaï des voitures autonomes, des petites voitures, des sortes de petites mini smart qui vont patrouiller dans les rues. et qui porte elle-même un drone qui peut lui aller détecter des choses qui ne vont pas dans les différents endroits que les autorités de Dubaï veulent surveiller.
Ça s'appelle « C'est comment ailleurs ?» signé Gérald Roux, un atlas insolite aux éditions Autrement et France Info. Merci beaucoup Gérald.
Merci à vous, à bientôt.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Allez, vous avez peut-être en tête des images de la basilique de la Nativité à Bethléem. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que les échafaudages, les travaux, comme vous l'entendez derrière moi, continuent à barrer son architecture depuis un bon moment. Ça touche tout de même à sa fin. Ce Noël, c'est sans doute le dernier Noël sous les échafaudages. Donc, 5 ans après le coup d'envoi du chantier, travaux de restauration, il reste que quelques mosaïques à finir. Et ce sera fait d'ici l'été prochain. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, la basilique a changé de visage. Hein. Le toit a été refait, la charpente a été restaurée. Un ange a été découvert dans les murs. Ces travaux ont été fortement encouragés par l'autorité palestinienne. Et la grotte de naissance, elle, si elle n'a pas pu être restaurée. Mais tout ça, sur le plan technique comme sur le plan diplomatique, l'histoire de cette restauration est une grande réussite.
Quand on regarde la couleur des mosaïques sur les murs ou la finesse des figures royales ou religieuses qui décorent 43 colonnes de cette basilique, on constate que ces travaux lui ont donné un sacré coup de jeune. Afif Touémé est palestinien, chrétien, né à Bethléem, en charge du projet pour l'autorité palestinienne.
Le travail qui a été fait pour nettoyer et mettre en valeur les pièces d'art dans l'église a tout remis au jour. Vous pouvez lire l'histoire maintenant, vous pouvez la sentir. Ça donne de la chaleur à cette église.
La rénovation de cet édifice est à la fois une opération de sauvetage et une course d'obstacles. La basilique était dans un état jugé catastrophique, mais les 3 communautés religieuses qui occupent le bâtiment représentaient un verrou qu'il a fallu dégripper. Ce chantier a été presque plus diplomatique que technique, dit le responsable de l'entreprise italienne qui a dirigé la restauration, Marcello Piacenti.
Donc, lavorare qua è stato veramente complesso.
Ce qui rend cette intervention si complexe, c'est d'avoir à gérer un nombre d'intervenants importants avec différentes confessions, religions et provenances. Et réussir une intervention aussi délicate dans ce contexte, c'était difficile. Mais le degré de responsabilité et d'émotion autour de ce chantier dépasse tout ce que j'ai pu faire en 43 années d'expérience.
Dans la basilique de la Nativité, il y a 3 communautés religieuses, les Grecs orthodoxes, les Franciscains et les Arméniens. C'est une cohabitation dans laquelle chacun défend, y compris par la force, sa part de territoire. Le père Eugenio Aliata est spécialisé dans l'archéologie chrétienne.
Si une des communautés commence à faire des travaux dans la basilique, immédiatement les autres communautés vont appeler la police. Seulement le propriétaire peut faire des travaux importants. Le propriétaire de la basilique, comme tel, c'est pas connu. Alors, dans cette situation, intervient le pouvoir public pour faire des travaux d'urgence.
La basilique de la Nativité n'avait pas été sérieusement restaurée depuis 2 siècles. Le toit n'était plus étanche. Des mosaïques du 4e siècle étaient menacées. Il a fallu l'action de 2 présidents palestiniens pour lancer les travaux, explique Imad Nassar. Il est membre du comité présidentiel qui pilote le projet.
Depuis que l'autorité palestinienne vient ici, depuis 1995, elle essaye de convaincre les églises de lancer la restauration. À chaque Noël, quand le président Arafat venait ici, il leur reposait cette même question sur la restauration.
L'autorité palestinienne a donc pris les choses en main. Au départ, le chantier concerne le toit et la charpente, mais par glissement, grâce à l'addition de financement, ces travaux s'étendent aux ouvrages d'art. Les colonnes et les mosaïques de l'époque des croisés ont été restaurées et les techniques modernes de sonde ont permis d'identifier une mosaïque supplémentaire de 2,50 m qui avait été avalée par le plâtre du mur, explique Afif Touémé.
Avant
les travaux, on avait 6 anges et maintenant on en a 7. Si vous entrez dans l'église par la porte principale et si vous regardez à gauche, vous allez voir des anges. Et le troisième, c'est celui qu'on a découvert.
Cette rénovation est aussi une plongée dans le temps. L'église a été construite au IVe siècle, puis reconstruite au VIe siècle. Il a donc fallu, pour remplacer certains morceaux de charpente, trouver des bois anciens. Dans cette rénovation, Marcello Piacenti est remonté au XIIe siècle.
Quand il y a des travaux de restauration dans des églises, on garde le bois qui est récupéré et on peut le racheter. Donc il y a des endroits en Italie, en France ou en Europe dans lesquels les restaurateurs peuvent acheter du bois ancien.
Pour l'autorité palestinienne, cette rénovation est un espoir de rentrée touristique plus importante, explique Imad Nassar, et une démonstration politique de son engagement dans son rôle de garant des libertés de culte.
Ces 5 dernières années au Proche-Orient, il y a eu beaucoup de guerres civiles et beaucoup d'églises ont été détruites. Ici, pendant ce temps, on a restauré l'église. C'est une façon de montrer pour l'autorité palestinienne que les chrétiens sont entre de bonnes mains.
Reste maintenant à trouver un mécanisme pour l'entretien et un miracle pour étendre la rénovation un jour à la grotte de la Nativité qui en a bien besoin, dit Eugenio Aliata.
Il faut que les trois communautés, avec de la bonne volonté, ils se trouvent ensemble et prennent une décision. La grotte a les propriétés des trois communautés ensemble. Comme on a trouvé une solution pour le Saint-Sépulcre, on espère que aussi on trouve une solution pour les propriétés de Bethléem.
La dernière phase du chantier est en sous-sol sur des mosaïques. Le comité présidentiel cherche encore des financements pour boucler un budget total de plus de 15 millions d'euros qui a été alimenté par 45 pays et organisations.
Étienne Monin, merci beaucoup. Vous êtes toujours le bienvenu. Évidemment, dans Un jour dans le monde. Et rien à voir, voici les Buena Vista Social Club. Pendant que vous ouvrez les huîtres, restez concentrés quand même, un accident est si vite arrivé. Chan chan.
De Alrocedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
C'est vrai que c'est pas trop Noël, hein, Buena Vista Social Club, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, Chan Chan, c'est super.
Le 18-20, Fabienne Saintès. sur France Inter.
Il est jamais trop tard pour un cadeau, jamais trop tard pour m'en faire. Je vous dis ça comme ça au passage. Ilana Mor-Youssef et Corinne Pellissier, à toutes les deux. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous allez nous donner vos coups de cœur 2018, films et livres étrangers. On commence, tiens, avec vous, Ilana Mor-Youssef, et la plus francophile des Américaines, Patti Smith, qui a publié début novembre un petit livre hybride. Ça s'appelle Devotion.
C'est un livre qui commence comme un carnet intime, qui propose au milieu une sorte de conte cruel, une histoire entre une patineuse et un homme intelligent, cultivé et plus âgé qu'elle. Et enfin, en troisième partie, on reprend la forme du carnet intime. C'est le séjour de Patti Smith dans la maison d'Albert Camus, toujours hyper francophile, Patti Smith. Vous le savez peut-être, c'est une immense lectrice, une sériale lectrice même, comme elle dit. Lecture et écriture sont étroitement mêlées pour elle. C'est ce qu'elle nous disait lorsque nous l'avons rencontrée cet automne à Paris.
The whole book was written, I'd say 90% was written in France, in Paris, and
tout le livre, disons 90% du livre, a été écrit en France, à Paris et à Sète et dans le train. Je suis allée à Sète avec les éditions Gallimard pour mon dernier livre. Nous sommes revenus en train et vous savez, j'ai une imagination très active. J'invente tout le temps des histoires dans ma tête, mais souvent, je ne les écris pas. C'est une façon de me distraire car je suis très impatiente et si je me retrouve dans un train ou dans un avion et même dans la salle de bain sans avoir quelque chose à lire, j'invente quelque chose. Parce que c'est difficile pour moi de rester longtemps sans quelque chose à lire. Alors quelquefois, j'écris une histoire dans ma tête juste pour me distraire.
Et on peut lire aussi la splendide interview qu'elle a accordée à François Bunel pour le dernier numéro de la Revue America. C'est un beau cadeau, ça aussi.
Absolument. Donc, Dévotion, j'ai dit Dévotion tout à l'heure, mais Dévotion, non, j'imagine, tout simplement.
Dévotion.
Patti Smith, bah oui. Publié chez Gallimard. Deuxième choix, Ilana, Monkey Diaries de Jane Birkin, édition Fire.
Alors, ça, formidable. C'est touchant, c'est émouvant, ouais. C'est drôle. Le journal de Jane Birkin, depuis son adolescence à l'âge de 11 ans, jusqu'à la séparation d'avec Gainsbourg au début des années 80, elle s'y révèle une femme qui doute énormément. Elle raconte l'amour fou, la vie fastueuse, le succès, le scandale également qui va avec, comme avec le célèbre « Je t'aime, moi non plus ».
Je vais et je me viens entre tes reins et je me retiens.
Voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle nous cache rien. Parfois, c'est glauque, hein, d'ailleurs. Et c'est ça qui est formidable aussi dans
La scène dans l'hôtel de passe avec Gainsbourg, d'ailleurs, c'est assez marrant.
Par exemple, on vous laisse découvrir ça. C'est publié chez Fayard. Un dernier roman, l'Israélien Ronit Matalon. Israélienne, pardon, ouais. La mariée ferme la porte.
Oui, alors ça c'est complètement différent, c'est un petit livre très particulier. En fait, le jour de son mariage, à quelques heures de la cérémonie, une jeune mariée décide de dire non. Elle s'enferme dans sa chambre sans autre explication, au grand désarroi de sa famille. Ça ressemble à une comédie italienne, c'est drôle, c'est grinçant, et c'est un tour de force, car c'est un livre où le personnage principal ne dit rien. Ronit Matalon nous a quittés trop tôt, malheureusement, l'année dernière, à l'âge de 58 ans. Son ami et éditeur israélien Dror Michani, qui est également auteur de romans policiers. Dror Michani, donc, était à Paris pour parler du livre.
C'est un roman sur l'acte de refuser, de dire non. Pour moi, c'est le cœur du roman. Elle ne dit pas un mot et pendant 24 heures, tout le monde va essayer de convaincre Margui, c'est le nom de la femme, de sortir et de se marier.
Ça s'appelle « La mariée ferma la porte », publié chez Actes Sud, signé Ronit Matalon. Bah, vous me le prêterez, parce que je vous avais pas entendu en parler, et ça m'a donné très envie. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Ilana Mor-Youssef, quels sont les meilleurs films de cette année? Ceux qu'on peut rattraper en salle, non? Le plus souvent, Corinne Pellissier, ou en VOD, ou en DVD, enfin, on fait ce qu'on veut. Ou devant la télé, c'est bien aussi parfois, Corinne.
Mais oui, on va parler de Netflix, voilà, sujet consensuel pour votre réveillon.
Oui, ça dépend.
De Noël, avec un film en espagnol, en noir et blanc, avec des acteurs que personne ne connaît. Pas les choses sur le papier, pas bankable, mais c'est juste le film le plus beau, le plus réussi de l'année. Le plus beau, le plus personnel, le plus émouvant, c'est Roma d'Alfonso Cuarón. Tourné au Mexique dans le quartier où il a grandi, élevé par la femme de ménage de la famille à qui il dédie le film, sur fond de crise politique, d'inégalité sociale. La photo est sublime, mais Roma, en France, ne sortira pas dans les cinémas. Il n'est disponible que sur Netflix, que pour les abonnés. C'est dommage, car c'est un film qui se regarde avec tous les yeux sur grand écran. Lion d'or à Venise, favori pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Donc on a bien compris, Corinne, vous voulez une grosse télévision, ma frère, passer le message, peut-être aussi un abonnement tant qu'à faire, ou alors un DVD de Wes Anderson, L'île aux chiens.
Également en lice pour les Oscars, tout à fait dans la catégorie meilleur film d'animation, meilleure musique aussi, avec le compositeur Alexandre Desplat. Si vous aimez l'univers pop et coloré de Wes Anderson, ses personnages solitaires un peu cabossés, puis si vous aimez les chiens, ce film est pour vous. C'est l'histoire d'une meute de chiens, soi-disant porteuse de maladies, exilée de force au milieu d'une décharge sur une île déserte. Le film est tout en stop motion, avec des miniatures excessivement bien réalisées. D'ailleurs, Père Noël, ici, mieux que le DVD, je voudrais les figurines collector.
Elle lève le doigt,
je crois
pas. Il n'est
pas trop tard.
Et sinon, pas de figurines pour le Jacques Audiard. Est-ce que vous voulez aussi du tabac à priser? Peut-être un Stetson?
Mais d'habitude, moi, je suis un petit peu comme Jacques Audiard, formidable. J'aime pas trop les westerns, mais ce qu'il a réalisé avec les Frères Sisters est quand même assez unique. Un western pur jus, avec de la violence dedans, des bagarres de saloon, des granges qui brûlent, et en même temps, un grand film de tolérance, de fraternité, avec un casting incroyable. Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Riz Ahmed, c'est juste l'un des meilleurs films du genre, et ok, et merci pour le Stetson. Film numéro 4.
C'est vrai qu'il n'y a pas que des chapeaux à large bord chez Stetson, il y a aussi des casquettes et tout. Non, mais je vous ferai un petit échantillon, c'est pas possible.
Film numéro 4, Black Panther. Ouais. Troisième plus gros succès du box-office américain derrière Avatar et le réveil de la force de Star Wars. Un super-héros noir, un pays imaginaire, le Wakanda, des milliers d'enfants qui ont vu le film. J'en suis tout émue grâce à Michelle Obama et Beyoncé qui avaient booké des places dans tous les cinémas. Le film, désormais symbole de diversité à Hollywood, est devenu même un phénomène de société.
What do you know about Wakanda? The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. With a good heart.
Alors oui, je sais, c'est un film de super-héros. Vous adorez ça, Fabienne?
Moi, je suis cliente.
Ouais. Avec un casting 80% noir, propos très politique. Et la donne est peut-être en train de changer dans les studios Hollywood.
En tout cas, non, mais celui-là était bien fait, donc je le conseille aussi. La BO est géniale, par ailleurs. Un petit dernier pour la route, un film russe?
Exactement, une BO a tombé par terre. Lieto, le tout dernier film du réalisateur Kirill Serebrennikov sur l'avènement du rock en Russie. Les premiers clubs, les albums de Lou Reed, de Bowie qu'on s'est changé sous le manteau. Une magnifique époque en noir et blanc sur fond de triangle amoureux. Le film est sorti en début de mois. Faites-vous offrir la BO avec, entre autres, cette reprise de Psycho Killer des Talking Heads.
Alors, tout le monde adore autour de la table, mais je ne suis pas sûr qu'un soir de Noël il faille laisser longtemps Psycho Killer. Je dis ça, je dis rien. Moi personnellement, peut-être moyen. Merci beaucoup Corinne Pellissier. On les a notés, vos choix. Merci Ilana Mouriosef pour les vôtres. On va parler de musique et de séries télé demain dans Un jour dans le monde, comme ça vous serez parés, puisqu'il n'est jamais trop tard pour faire des cadeaux. Merci à tous.